BFM Business, BFM Crypto, les pros. Vincent Tourelle.
Il est 15h sur BFM Business, bienvenue dans les pros des cryptos tous les vendredis jusqu'à 15h30 sur BFM Business. Les pros des cryptos, c'est l'essentiel de l'actu de la semaine dans le monde fascinant des cryptos. Pour nous accompagner aujourd'hui, Claire Balva est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes VP Stratégie chez Deblock et à distance, Thibaut Boutroux en duplex devrais-je dire. Bonjour Thibaut.
Bonjour Vincent.
CEO de Meria. Dans un instant, les grands titres de la semaine. Mais tout d'abord, nous sommes avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Xavier, bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi.
Bonjour Vincent.
Alors, encore une semaine très difficile pour le Bitcoin. On est à un petit peu plus de 83 000 dollars. Bon, ceci dit, on avait commencé, il me semble, en tout cas de ce que j'avais regardé moi, on avait commencé un tout petit peu plus bas ou à peu près à ce niveau-là, on va dire lundi. Hein. Je crois qu'on était à 82 000, mais ça a vraiment été les montagnes russes cette semaine.
Bah, c'est vrai, oui, on est à plus 3% finalement sur la semaine sur Bitcoin. Après, rappelons-nous, hein, la semaine dernière, quand même moins 15% la semaine passée. Donc, on ne dit pas non, on prend. Alors aujourd'hui, en plus, on a quand même trois points positifs. Déjà, première chose, c'est qu'on tient un gros niveau des 75 000 dollars. Ça, c'est vraiment le niveau plancher à ne pas enfoncer ces prochains jours et semaines. C'est les plus hauts de début 2024. Ça correspond, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, moyenne mobile à 50 semaines, qui avait d'ailleurs déjà relancé les cours juste avant le début du bull Trump en septembre 2024. Donc, tant qu'on tient les 75 000 dollars, ça reste aussi à moyen terme, même après 20% de baisse depuis les plus hauts. Deuxième chose, la chute des marchés américains, ça se calme depuis trois jours après 10% de baisse et on sait qu'il y a quand même un certain mimétisme, j'en parle souvent ici, entre marché crypto et marché traditionnel. Et troisième chose, bah, c'est la force du Bitcoin. Si on prend finalement sa variation depuis mardi, on est à plus 6% alors qu'il n'y a pas encore de rebond des marchés traditionnels. On a juste une latéralisation. Ça montre finalement un certain détachement avec les marchés américains, ce qui est plutôt positif. Alors maintenant, il faut que ça dure, bien évidemment. Et d'ailleurs, en parlant de force, depuis le début de l'année, donc dans un marché qui est quand même compliqué sur le marché des crypto-monnaies, ben on voit que Bitcoin en profite finalement petit à petit de gagner encore plus de dominance. On était à 57% au 1er janvier, aujourd'hui on est à 62% au plus haut depuis mars 2021. Au-dessus de 89, 90 000 dollars sur Bitcoin, ben on tournerait finalement la page à court terme de cette pression baissière qu'on a depuis un mois pour repartir sur de bonnes bases et à l'assaut notamment des 100 000 dollars voire au-delà. En fait, si vous voulez, sur Bitcoin, je suis pas vraiment inquiet, même si demain, on devait reperdre encore 10%, parce que on voit qu'il y a quand même une belle construction haussière à moyen terme. Aujourd'hui, le plus problématique, c'est plutôt sur ce qui se passe ailleurs, en fait, sur le reste du marché. Et déjà, par le numéro 2 Ethereum, si je peux juste en dire deux mots.
Oui, bien sûr, allez-y.
Sa faiblesse par rapport au Bitcoin, en fait, elle continue de croître. Il est passé sous les 2200 dollars, qui était le plancher durant une année. Aujourd'hui, on est à 1900 dollars. Et s'installer en dessous de ce plancher, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. 2000-2200 dollars, ça, il faudra vraiment les reconquérir rapidement pour ne pas le voir s'enfoncer jusqu'aux 1400 dollars, les plus bas de l'été 2023. Mais bah, c'est vrai que c'est plutôt quand la peur est à son maximum qu'il y a justement des opportunités, plutôt qu'en pleine euphorie. Et c'était le cas d'ailleurs hein, quand le Bitcoin passait sous 80 000 dollars il y a quelques jours. Bah aujourd'hui, vous l'avez dit, on est au-delà des 83 000 dollars.
Oui, c'est pas si mal finalement quand on regarde sur la semaine. Merci beaucoup Xavier Fenot chez Interactive Trading. Très bonne fin de semaine à vous. Le sommaire donc de ces pros des cryptos. Le Bitcoin, bien entendu, encore des remous cette semaine. Est-ce qu'on peut envisager un rebond? On va en parler avec nos deux experts. On va parler de financement aussi. Plus d'un milliard de dollars levés en février dans le monde des cryptos. Et puis, on parlera des banques qui adoptent de plus en plus les services crypto. Dernier exemple en date, BBVA, l'espagnol BBVA, qui lance donc un nouveau service crypto. Votre machine à concentrer, l'info hebdo des cryptos s'enclenche. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
C'est une semaine encore très agitée que vient de vivre l'écosystème crypto. Alors difficile de suivre tant les événements et les déclarations s'enchaînent. À peine un épisode est terminé qu'un autre débute. Côté macro, le contexte reste lui aussi incertain. Tout ça pèse sur les épaules des investisseurs. Les indices de sentiment sont au plus bas. Thibaut, on commence avec vous. Thibaut Boutrou, pourquoi autant de volatilité en ce moment et pourquoi le marché a un petit peu de mal quand même, faut bien le reconnaître, même si on est positif sur la semaine, un petit peu de mal à rebondir malgré des annonces quand même positives, hein, notamment sur la réserve crypto des États-Unis.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, on a plus une combinaison de différents facteurs qui font que le marché peine un petit peu à reprendre des couleurs. Déjà, depuis quelques semaines, quelques mois, on a les projecteurs qui sont vraiment braqués sur le secteur crypto, ce qui fait que chaque rumeur, chaque annonce est surmédiatisée, surinterprétée, et en fait, quand on a l'officialisation, mais en fait, elle est déjà pricée. Et en fait, l'exemple des réserves est très symbolique de ça. On en parle depuis maintenant un certain temps, depuis l'élection et l'investiture de Donald Trump. On parle de ces réserves-là, donc elle a déjà été un petit peu intégrée dans le prix. Et puis au moment de l'annonce, bah c'est un petit peu confus, c'est-à-dire que c'est annoncé sur un tweet. Finalement, on parle plus de Bitcoin, on parle de XRP, de Solana et d'autres cryptos. Puis après, il y a un autre tweet qui dit non, finalement, j'ai oublié Bitcoin et Ether. Et puis quelques jours après, il y a un sommet important des cryptos où on attend là des déclarations, des précisions, un calendrier. Et pendant ce sommet, il se passe pas grand-chose. Donc ça met aussi un certain flou. On ne sait pas trop comment se positionner. On voit des belles annonces, mais on se dit bon bah peut-être qu'on va avoir son contraire qui va sortir demain. Donc assez difficile de se positionner dans tout ça. Qui plus est dans un contexte macro qui est relativement complexe. Les investisseurs sont donc plutôt en retrait, adoptent plutôt une position conservateur et de spectateur sur le marché en attendant d'avoir un petit peu plus de visibilité à l'horizon. Et tant qu'on va être dans ce contexte-là, forcément, ça sera compliqué pour le marché de rebondir.
Bon, on voit aussi des prises de position politique clivantes, des suspicions de manipulation de marché. Claire, on peut se demander si ça ne freine pas aussi le retour du grand public sur les cryptos. Si les investisseurs restent à l'écart, la reprise du marché prendra plus de temps.
Oui, en fait, les particuliers, le grand public, c'est vraiment ça qui manque à ce bull run. Ouais. On a des institutionnels qui sont là, on a les ETF depuis plus d'un an maintenant. Mmh. Et donc, c'est vrai que les professionnels sont déjà arrivés sur ce marché, même s'ils pourraient toujours venir plus. Et par rapport au dernier cycle, il nous manque cette vague de particuliers. Sauf que quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, forcément, les particuliers sont méfiants. Moi, ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est Donald Trump a cassé le marché. C'est-à-dire qu'il est arrivé en faisant...
Alors qu'il était soi-disant favorable.
Enfin, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a,
il était vu comme quelqu'un de positif.
Bien sûr, et il a eu un impact à un moment donné positif sur les prix, de par son élection, de par ses promesses. Mmh. Sauf que cet impact a été peut-être trop vite, trop fort, et surtout, ça a donné l'impression que le secteur, et surtout les prix des cryptos, étaient particulièrement sensibles à ce type d'annonce et à ce personnage qui, de surcroît, est quand même assez controversé et assez clivant. Je passe après, bien sûr, sur les lancements de Memecoin qui n'ont rien arrangé. Mmh. Mais pour le grand public, ça donne forcément une image assez inquiétante. Et finalement, on se dit, je vais acheter des cryptos pour que demain, un homme politique ou une femme politique puisse lancer un Memecoin, faire des annonces et puis faire monter le prix et peut-être le faire baisser aussi quand ça l'arrange parce qu'il va aider ses copains. Donc, ça ne rassure pas du tout le grand public qui, sans être expert de la réglementation, a quand même besoin d'une forme de stabilité et d'image saine pour pouvoir y placer son argent.
Bon, il n'y a pas de désinvestissement quand même. On ne voit pas de flux sortants importants. C'est juste que ces particuliers n'augmentent pas leur exposition.
Ces particuliers n'augmentent pas leur exposition et surtout, on ne voit pas tellement arriver beaucoup de nouveaux particuliers. On en voit, mais dans une moindre proportion par rapport au dernier cycle.
D'accord. Alors, sur une note plus optimiste, il y a aussi quelques bonnes nouvelles pour l'industrie, hein, notamment du côté des financements. Rien qu'en février, 137 entreprises crypto ont levé un total d'1,1 milliard de dollars. Les grands fonds de capital risque semblent retrouver un intérêt pour le secteur. Les prévisions sont encourageantes. Cette tendance se confirme cette semaine avec l'annonce de Binance qui dévoile un investissement record. Thibaut, qu'est-ce que l'on sait de cet investissement et qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais, bah alors déjà ça fait le lien avec ce que vient de dire Claire, c'est-à-dire que si effectivement on peine à attirer de nouveaux investisseurs particuliers et le retail sur le marché, côté pro et côté institution, on voit quand même un intérêt qui est revenu et qui se confirme avec ces investissements qu'on voit depuis le début de l'année. Et donc là cette semaine, il y a effectivement Binance qui a secoué un peu tout le monde avec une annonce assez importante, un investissement de 2 milliards de dollars de la part de la société d'investissement MGX, qui est basé à Abu Dhabi, qui est une société d'investissement qui a l'habitude d'investir dans des technos de pointe, notamment dans l'intelligence artificielle. Et c'est un investissement record à plusieurs égards. Déjà, c'est le plus gros investissement dans une société crypto, et c'est aussi le plus gros investissement réalisé en crypto directement. Donc, il a une double symbolique, cet investissement. Il va permettre à Binance d'appuyer encore un peu plus sa position de leader, même si on va voir que c'est pas du tout les seuls à être actifs sur le sujet. Et moi, il y a un autre point que je vois entre les lignes de cette annonce que je trouve particulièrement intéressant à souligner, c'est que cet investissement, il est fait depuis le Moyen-Orient, là où Binance est bien implémenté. Hein, il y a plus de 1000 salariés qui sont basés dans cette zone géographique sur à peu près 5000. Et on a l'habitude du regard français de voir les hubs technologiques qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, à Singapour, à Hong Kong, etc. Et on parle pas forcément de cette nouvelle zone qui est en train d'émerger, qui est la zone du Golfe, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de capitaux, qui est en train de faire beaucoup de choses sur la partie crypto, qui a déjà attiré une partie de l'industrie, qui est en train de faire beaucoup de choses sur la partie intelligence artificielle aussi. Et cet investissement, il s'inscrit aussi dans cette dynamique où on a un nouveau pôle qui est en train d'émerger. Et ça, c'est intéressant de voir comment ça va se développer sur le nouvel échiquier géopolitique au niveau de la tech.
Bon, tout ça, en tout cas, ça met en lumière l'ampleur que prennent aujourd'hui les plateformes d'échange, hein, qui sont florissantes avec des taux de croissance importants. Coinbase avait déjà marqué un tournant avec son IPO record, son introduction en bourse record en 2021, Claire, et on entend de plus en plus de rumeurs sur d'autres plateformes qui pourraient suivre cette voie, qui sont ces acteurs. Et est-ce qu'on assiste à une consolidation du marché autour de ces géants?
Oui, très clairement. Alors, l'acteur dont vous parlez, je pense, c'est Kraken. Ouais. On entend des rumeurs qui courent sur une potentielle entrée en bourse de Kraken. Mmh. Alors, rien d'officiel encore, mais on sent que ça serait la suite logique, puisque Kraken est quand même une grande plateforme reconnue, ouais, suffisamment ancienne. Maintenant, la consolidation du secteur, elle se fait pas que par des entrées en bourse, hein, elle se fait aussi par des rachats, par des fusions. Alors, je pense récemment au rachat de Bitstamp par Robinhood, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance à la croissance forcée, je dirais presque, pour ces entreprises, parce que la réglementation est telle qu'aujourd'hui, pour être rentable, une entreprise doit tout simplement grossir au maximum, parce que les coûts de conformité sont élevés. Et donc, on peut plus être juste une plateforme d'échange, voilà, à 15 personnes, comme une start-up, c'est pas possible. Donc, forcément, il y a un impératif de croissance. Et donc, les consolidations sont aussi un moyen d'atteindre cette croissance. Donc, en toute logique, je pense qu'on va voir de plus en plus des plateformes être rachetées, fusionnées. Peut-être certaines plateformes aussi être rachetées par des banques. C'est une hypothèse qu'on formule depuis plusieurs années maintenant sur ce plateau. C'est vrai que c'est pas encore tellement arrivé parce que les banques sont un peu plus lentes à entrer dans la danse, mais ça pourrait très bien arriver dans les prochaines années aussi.
C'est quoi l'actu sur Bitpanda? Il y a une actu particulière dans ce sens? Justement, en termes de consolidation, non, pas spécialement.
Je ne l'ai pas vu particulièrement.
D'accord, très bien, ok. Alors, conséquence de ce succès des plateformes d'échange, on voit depuis quelques temps de plus en plus d'établissements traditionnels franchir le pas de la crypto, je le disais dans les titres, même certains acteurs bancaires d'envergure internationale. Et cette semaine, BBVA, la deuxième plus grande banque espagnole, a annoncé un nouveau service crypto pour ses clients. Thibaut, de quoi s'agit-il exactement et pourquoi est-ce un petit événement?
Ouais, bah alors c'est certainement la première d'une longue liste, hein, un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Donc effectivement, BBVA qui a eu le feu vert du régulateur espagnol pour proposer un service d'achat, de vente et de conservation crypto pour le compte de ses clients. C'est pas surprenant de les voir dégainer en premier. Ils sont actifs sur le sujet crypto depuis un certain temps. D'ailleurs, ce service-là, en réalité, ils le déploient déjà dans d'autres zones géographiques, notamment en Turquie et aussi en Suisse, je crois. Donc ils ont déjà un petit peu de track record sur le produit et ils ont déjà l'infrastructure qui permet de le déployer. Donc il manquait plus que ce feu vert réglementaire qui est en train de se débloquer en Europe avec les premières licences MiCA qui sont en train de tomber. Donc effectivement, c'est un petit événement qui fait date pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que c'est des banques qui sont d'une envergure importante et donc qui ont une capacité de distribution et de toucher énormément de monde. Donc dans une optique d'adoption de masse, forcément que c'est des acteurs qui vont avoir un poids important. Et c'est aussi, il y a aussi un autre symbole derrière, c'est que dans l'univers collectif, on a encore tendance beaucoup, notamment dans le regard français, à opposer l'industrie bancaire et l'industrie crypto, alors qu'aujourd'hui, je ne connais pas une seule banque qui ne travaille pas et qui ne considère pas le sujet crypto sous un angle ou un autre, parce qu'il y a plein de manières de l'aborder. Mais ces annonces qui commencent à arriver vont permettre de montrer qu'on est arrivé à ce point de bascule. Donc, le temps où l'industrie bancaire boudait les cryptos est passé et on risque de voir... ceux qui sont dans l'industrie, on sait qu'il y a beaucoup d'autres acteurs bancaires qui travaillent sur différents sujets. Et donc, on va avoir dans les semaines et mois à venir beaucoup d'autres annonces du même type qui vont permettre d'amener peut-être, c'est peut-être cette vague-là qui va permettre d'amener des nouveaux investisseurs sur le marché.
Bon, en tout cas, BBVA, c'est la première grande banque européenne à franchir le pas. Dans l'imaginaire collectif, crypto et banque, hein, ça sonne pas forcément, ça sonne comme une opposition. Donc, et en France notamment, on a l'impression que les deux mondes sont en confrontation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une idée reçue? Où en est-on de la situation en France, Claire?
Oui, c'est une relation très ambivalente, en fait, entre le secteur bancaire et le secteur crypto. Il y a effectivement une forme de mésentente sur plusieurs sujets, déjà parce que derrière l'idéologie crypto, en particulier Bitcoin, il y avait quand même l'idée de pouvoir se passer d'intermédiaires financiers, pouvoir se passer de l'État, pouvoir se passer des banques. Donc forcément, les banques ont vu d'un assez mauvais œil l'arrivée de ces monnaies ou de ces actifs. Et puis inversement, les acteurs crypto en France, mais aussi ailleurs dans le monde, hein, en Europe et même aux États-Unis, ont eu un mal fou à se bancariser. Quand vous êtes une entreprise et que vous bossez dans la crypto, c'est très dur d'avoir un compte bancaire. Et donc, ça n'a fait qu'attiser le ressentiment de ces acteurs crypto envers le monde bancaire. Et je ne parle même pas des particuliers, hein, comme vous et moi, qui achètent de la crypto ou qui la vendent et qui parfois ont d'énormes difficultés à rapatrier leurs fonds sur leur compte bancaire parce que les banques refusent ces virements. Donc forcément, c'est un vrai sujet, hein, cette disparité entre le monde bancaire et le monde crypto. Nous, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on travaille chez Desblocs,
voilà,
c'est un sujet qu'on connaît bien. Mais on voit quand même forcément que les banques, petit à petit, se mettent à la crypto parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'il y a une pression commerciale. Et donc, on a vu par exemple BPCE l'année dernière obtenir son agrément PSAN avec sa filiale Ouark, je crois, je ne sais même pas comment on la prononce, pardon.
Ewark,
sans doute. Et on voit aussi Société Générale qui a monté sa filiale Forge sur ce sujet-là. Alors, on n'a pas encore vu d'offres auprès du grand public être directement commercialisées par des banques françaises. Mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on voit que les banques travaillent dessus. Il y a même certaines banques qui ont conclu des partenariats avec des grandes entreprises de custody. Donc, toutes les banques en France, en réalité, aujourd'hui, ont des projets sur la crypto, mais ne les ont pas encore sortis. Donc, on peut quand même s'attendre à ce qu'en 2026, 2027, ces projets sortent. Mais je mets quand même un bémol parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des banques aussi dans mon ancienne vie. Et ce que je vois, c'est que les banques agissent aussi en fonction de la pression commerciale qu'elles reçoivent. Et donc, si on a des cours crypto qui montent, forcément, ça les pousse à sortir ce type d'offre. Et ça donne de la force aussi en interne chez les banques à ceux qui portent ces projets-là. À l'inverse, quand on vit un crash, donc si par exemple en 2025, on vit un crash des cours, ça va être beaucoup plus difficile pour les personnes en interne chez ces banques d'aller pousser le projet et de le faire sortir. Donc en fait, les prix des cryptos ont un impact direct sur les offres qu'on va voir sortir ou pas chez les banques.
Et puis, elles se regardent certainement les unes les autres, voir qui va sortir son offre en premier. Bon, puisqu'on parle de rapprochement entre crypto et finances traditionnelles, du nouveau sur l'euro numérique, Thibault, on a enfin un calendrier. À quoi doit-on s'attendre ?
Ouais, on a eu une conférence de presse la semaine dernière qui donnait un petit peu de nouvelles et presque un calendrier. Donc, on a une date qui est octobre 2025, qui est en fait la fin de la période de test pour l'euro numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être lancé après ça. C'est pas une officialisation. Pour être lancé, il faudra encore le feu vert du Parlement et de la Commission européenne. Et pour l'instant, a priori, dans les rangs, il y aurait encore pas mal de personnes qui sont dubitatives sur le projet et qui ont émis des réserves. En l'état, on n'a pas beaucoup plus d'informations. En tout cas, j'en ai pas vu passer, moi, des informations sur vraiment le fonctionnement, l'objectif et tous les détails un petit peu techniques qu'on va avoir qu'on va avoir derrière. Sans ça, assez difficile de se prononcer sur ce que ça va être. Si on suit un petit peu le modèle chinois et les premiers échos qu'on a eu de cet euro numérique, a priori, on sera plutôt sur une monnaie de surveillance et on sera sur un usage qui sera relativement limité. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent et est-ce que c'est souhaitable? Pas forcément, d'autant plus qu'on voit que dans d'autres zones géographiques, on prend plutôt un chemin qui est différent. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'avec ce calendrier octobre 2025, on va avoir normalement des précisions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qu'à partir de là, on pourra avoir une analyse un peu plus précise sur ce sujet qui reste encore assez flou et qui, en l'état, n'est pas forcément quelque chose qui sera forcément très intéressant pour monsieur tout le monde.
Claire, votre avis sur la question ?
Thibault, un des grands sujets en ce moment dans les négociations entre le secteur bancaire et la Banque Centrale Européenne, c'est par exemple le montant maximum d'euros numériques qui serait détenable par un citoyen européen. Ouais. Forcément, les banques commerciales n'ont pas très envie que les dépôts bancaires partent sur ces portefeuilles d'euros numériques, de monnaie numérique de banque centrale, parce que pour elles, tout simplement, ça leur fait moins d'argent à prêter, etc. Ouais. Et donc, il y a cet enjeu de négociation. On avait entendu des seuils de 3 000 euros. Dans les négociations, en réalité, les banques tirent même vers le bas. Hein, ça pourrait même être en dessous de 1 000 euros. Mais bon, là, on est vraiment sur des piécettes. Donc, ça limiterait beaucoup la portée de l'euro numérique. Forcément, la Banque centrale, elle, a plutôt envie de tirer ce montant vers le haut. Et donc, toutes ces négociations vont permettre aussi d'en savoir plus, une fois qu'elles ont abouti, sur la portée éventuelle de cet euro numérique.
Alors là, on parle côté européen. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump a pris une position radicalement opposée. Il vient de signer un décret interdisant la création d'une monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. C'est une décision qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l'écosystème. Claire, est-ce que cela risque d'accélérer encore plus l'adoption des stablecoins adossés au dollar qui dominent déjà le marché? Et pourquoi l'Europe s'inquiète du développement de ces stablecoins?
En fait, les États-Unis et l'Europe sont pas du tout dans la même posture. Les États-Unis, ils ont déjà gagné le marché des stablecoins. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour eux de dire on n'a même pas besoin de faire une monnaie numérique de banque centrale, on a déjà des stablecoins. Notre dollar est déjà très compétitif sur ce marché-là. Et puis, c'est peut-être aussi plus dans la culture américaine de vouloir éviter une monnaie numérique de banque centrale qui permettrait peut-être plus de surveillance des citoyens. Donc, en tout cas, cette nouvelle, elle est accueillie très favorablement par les différentes communautés crypto et par le secteur crypto en général, parce que ça correspond un peu plus à l'éthos, on va dire, de la crypto, d'avoir des stablecoins plutôt que d'avoir une monnaie numérique qui est émise par une banque centrale.
D'accord.
Donc, c'est une nouvelle qui est accueillie favorablement. Maintenant, il faut bien se rendre compte que les États-Unis, ils sont déjà énormes sur ce marché des stablecoins. L'Europe, elle est toute petite. Les stablecoins euros, c'est ridicule par rapport aux stablecoins dollars aujourd'hui. Et donc, l'enjeu pour l'Europe, c'est d'arriver à trouver un moyen de rendre son euro, donc sa monnaie, compétitif dans ce nouveau monde technologique. Et donc, il y a évidemment plein de manières de faire, mais la manière qui serait privilégiée par les acteurs dans la crypto, c'est bien évidemment de faire des stablecoins euros et d'être compétitif par rapport aux stablecoins dollars. C'est pas tellement ce que privilégient aujourd'hui les régulateurs européens et la Banque centrale, qui ont plutôt envie d'émettre un euro numérique pour garder, je dirais, plus de contrôle sur cette monnaie, sur son émission. Technologiquement, ça pose plein de questions. Thibault le disait tout à l'heure, on n'a en fait pas énormément d'informations sur la manière dont ce serait conçu. Toujours est-il qu'en attendant, en fait, on perd du temps. Parce que les stablecoins euros se font encore rares. Alors certes, il y a une réglementation qui est censée les favoriser, mais en fait, elle ne les favorise pas tellement. On les attend toujours. Et l'euro numérique...
À l'échelle européenne, ce serait quelque chose de décidé à l'échelle européenne. Oui.
Exactement. Donc on attend. Et pendant qu'on attend, les stablecoins dollars sont toujours là. Ils sont toujours très largement utilisés dans ce monde-là.
En tout cas, j'ai appris un acronyme là. MNBC, monnaie numérique de banque centrale. On a encore un petit peu de temps. Thibault, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect américain? Et puis on parlera du Real World Asset. Un petit mot sur justement ce qui se passe aux États-Unis, ce que ça implique en Europe pour les stablecoins.
Non, mais je pense que Claire a très bien détaillé la situation. Hein. Les États-Unis profitent que les stablecoins dollars sont déjà bien développés pour appuyer un petit peu l'hégémonie du dollar. Ils ont déjà une position qui est déjà bien affirmée. Dans les réserves aujourd'hui, on demande de renforcer le dollar finalement, puisque certaines sont dues 1-1 ou doivent prendre des bons du réserve du trésor américain. Donc forcément, plus les stablecoins dollars vont être forts, plus ça va permettre aussi au dollar américain de se renforcer davantage. Donc il y a un vrai sujet de souveraineté autour des stablecoins qui risque d'être une des batailles importantes des dernières années. C'est vrai que les États-Unis et le dollar à plusieurs longueurs d'avance aujourd'hui sur nous, donc il faudra vite réagir.
Thibault, vous avez proposé de nous parler aussi pour finir d'une tendance qui émerge depuis plusieurs mois, le RWA, donc pour Real World Asset, qui représente la tokenisation d'actifs réels sur la blockchain. Alors que les marchés financiers sont à la peine, hein, la dynamique reste positive sur ce segment. Vous nous dites, en témoignent les derniers chiffres du protocole leader Ondo Finance. Expliquez-nous un petit peu.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Le RWA, on n'en parle pas forcément souvent, c'est pas ma spécialité, mais c'était l'occasion d'en dire un petit mot parce que à un moment où on a quand même les cours et le marché qui est un petit peu plus en difficulté sur les dernières semaines, il y a cette narrative là qui est tenue depuis plusieurs mois, qui continue à avoir une croissance progressive et notamment ce protocole Ondo Finance, qui est le plus gros protocole, qui vient de passer le milliard de TVL, donc la TVL, c'est la valeur en token qui est immobilisée sur le protocole. Donc c'est plutôt un signal qui est intéressant. Ça fait aussi le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec toute cette dimension et toute cette institutionnalisation du secteur qui est en train de se mettre en place. Puis aujourd'hui, la tokenisation est plutôt un usage qui intéresse les acteurs institutionnels. Mais c'était intéressant de voir que dans tout ce brouillard, il y a quand même certaines narratives qui tirent leur épingle du jeu. Et ça montre aussi que ce secteur est en train de se professionnaliser, est en train de se segmenter. Et ce n'est pas parce qu'on a certains aspects qui sont un petit peu plus en difficulté que tout le marché l'est. Donc voilà, c'était plutôt ce point-là que je trouvais intéressant de souligner.
Claire, vous vouliez compléter ce que dit Thibault.
Oui, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à voir arriver sur les infrastructures blockchain des actifs du monde réel. Et ça montre, enfin, c'est vraiment un signal de cette tendance de fond qui est que petit à petit, la finance va se tokeniser et va arriver sur les blockchains. Et donc, on va vraiment avoir des infrastructures qui vont devenir les infrastructures de demain. Cette transition, elle va être longue. Hein, il faut pas se leurrer. C'est pas demain qu'on va débrancher Euronext, le système bancaire traditionnel, etc. Mais petit à petit, on va avoir des infrastructures qui cohabitent et on va voir des actions d'entreprise, des jetons qui représentent des matières premières, tout ça circuler sur les blockchains et donc être interopérable avec, par exemple, nos portefeuilles crypto. Et donc, on pourrait très bien, dans un portefeuille crypto, avoir nos cryptos comme de l'Ether, des représentations du dollar, et puis pourquoi pas des actions d'entreprise, des matières premières, etc. Et ça, c'est assez prometteur parce que ça laisse entrevoir une finance beaucoup plus transparente, beaucoup plus automatisée. Ce qui va être intéressant aussi dans les prochaines années, c'est de voir cette cohabitation entre ces deux finances, parce que je vous donne un élément tout bête, oui. Quand on achète et qu'on vend des actions, il y a un marché qui est ouvert avec des horaires.
Oui,
et voilà, et le week-end, on ne peut pas acheter des actions aussi. Voilà, on peut pas.
À la limite, heureusement, parce qu'on serait stressé en permanence. Mais bon, allez-y.
Mais dans la crypto, on peut.
Je sais, justement.
Et donc, vous voyez bien que si on se retrouve avec des actifs tokenisés qui représentent.
Donc, on peut trader surtout en permanence.
On pourrait avoir des horaires beaucoup plus larges, en fait, ne juste pas avoir d'horaires de fermeture. Et donc, pouvoir faire des transactions à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la semaine. Et donc, on aura une cohabitation, je pense, un peu difficile dans les premiers temps. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment les régulateurs vont s'adapter aussi.
Voilà pour l'avenir de la finance. On vous dit vraiment tout dans les pros des cryptos. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir participé à ce pro des cryptos. Claire Balva, VP stratégie chez Debloc. Et Thibault Boutrou, COO de Meria. Très bonne fin de semaine à vous deux. Je vous rappelle le Bitcoin qui se replie un tout petit peu par rapport au niveau de tout à l'heure. On repasse sous les 83 000 dollars à 82 755. Voilà, bientôt 15h30 sur BFM Business. À suivre, c'est BFM Bourse. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.